Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, le mot de trop.
Le mot noir qui a mis fin prématurément hier soir au match du PSG face aux Turcs de Başakşehir. Mutinerie dans les vestiaires, du jamais vu. Un beau veau de la police en janvier, annonce hier d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'était pas au courant. Et puis une autre enquête sur ces salles de sport qui déjouent le confinement.
RTL Matin.
Le ras-le-bol, c'est le titre qui barre la une de l'équipe ce matin. Ras-le-bol de ce racisme devenu tellement ordinaire qu'on a fini par s'y habituer. Pas cette fois. Cette fois, des footballeurs ont dit stop, pas question de laisser passer. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
On va rappeler les faits avec vous. On est au Parc des Princes. Hier soir, le PSG reçoit les Turcs de Başakşehir et au bout de 13 minutes, tout s'arrête.
Oui, quand l'arbitre assistant veut signifier à l'arbitre principal que Pierre Webo, l'entraîneur adjoint du club d'Istanbul, a un comportement trop agité, il le désigne en employant le mot négrou, le noir en roumain. Nationalité des deux arbitres, Pierre Webo est exclu. Les joueurs de Başakşehir puis du PSG s'insurgent et quittent conjointement la pelouse 10 minutes plus tard.
Et ce qui va se passer ensuite est historique.
Bah oui, puisque la partie ne reprendra pas, c'est une première. L'UEFA a bien tenté pendant 2h30 de convaincre le club turc en proposant par exemple d'intervertir le quatrième arbitre avec l'assistant vidéo. Quelques joueurs étaient prêts à accepter en rentrant sur la pelouse main dans la main symboliquement avec ceux du PSG, comme l'a expliqué Raphaël, le défenseur de Başakşehir, à une télé brésilienne en direct dès hier soir. Mais finalement, la majorité l'a emporté. Si l'UEFA n'exfiltrait pas purement et simplement cet arbitre, impossible de reprendre, et c'est ce qui s'est passé.
Et le match est reprogrammé ce soir, hein, toujours au Parc des Princes. Merci beaucoup Philippe Sanfourche. L'affaire est montée très haut puisque le président turc Erdogan a condamné fermement sur Twitter ses propos racistes.
Reprogrammé à 19h, rappelons-le. L'émotion en Savoie après le crash d'un hélicoptère de secours en montagne.
L'appareil s'est écrasé en début de soirée lors d'une mission d'entraînement. 5 personnes sont décédées. Seul le pilote qui a donné l'alerte a survécu. Il est dans un état grave. Le préfet de Savoie, Pascal Bollot.
Il y avait un pilote, il y avait un instructeur, il y avait 2 techniciens treuillistes à bord. J'ai également une pensée évidemment pour le commandant d'unité de la CRS de montagne qui est également décédé. Et pour un de ses camarades, CRS également, qui était à bord. Ils étaient là pour sauver des vies. Ils étaient là pour s'entraîner pour sauver des vies. Et ils ont laissé la leur. Donc, je pense à leur famille, je pense à leurs enfants. Et je voudrais leur dire que toute la nation est avec eux ce soir parce qu'ils sont morts pour une noble cause. Sauver la vie des autres.
Propos recueillis par Serge Puyot et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place. Auparavant, il présentera en Conseil des ministres Gérald Darmanin son projet de loi contre les séparatismes pour renforcer la lutte contre l'islam radical. On va détailler cela dans un instant, mais tout d'abord, on vous retrouve, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL. Le ministre de l'Intérieur a de nombreux fers au feu en ce moment, hein. Le terrorisme, la colère dans la police accusée de violence. Emmanuel Macron a annoncé hier une vaste réflexion sur les forces de l'ordre, un Beauvau de la police pour janvier. Et ce que vous nous apprenez, Olivier, c'est que son ministre n'était pas au courant.
Bah effectivement, Emmanuel Macron a géré ça directement avec le syndicaliste policier Yves Lefebvre. Les deux hommes échangent des SMS sans le ministre de l'Intérieur dans la boucle. Et à ce Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron a bien précisé « j'y interviendrai personnellement ». Gérald Darmanin est là pour incarner la sécurité, le virage régalien, pour parler à la droite, mais sur l'article 24, il a planter la majorité, estiment plusieurs proches du président. Emmanuel Macron signifie donc qu'il reprend la main. Le chef de l'État gère directement aussi pour faire retomber la pression avec la police après ses propres propos en fin de semaine dernière sur les contrôles aux faciès et les violences policières. L'objectif d'Emmanuel Macron est d'ouvrir Beauvau pour sortir du tête-à-tête entre les syndicats policiers et le ministre de l'Intérieur qui finit par céder à tout. Car même si le désaveu est cinglant pour Gérald Darmanin, il n'est pas question une seule seconde de s'en séparer d'ici 2022.
Merci pour ces infos, Olivier Bost. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Venons donc à ce texte que devra défendre tout à l'heure le ministre de l'Intérieur en Conseil des ministres, le projet de loi contre les séparatismes. Objectif, on disait, renforcer la lutte contre l'islamisme.
Oui, Emmanuel Macron veut réarmer la France face à l'islam radical. La loi compte 54 articles censés combler les vides de notre arsenal juridique. Certaines dispositions ont été musclées après l'assassinat de Samuel Paty. Un délit de haine sur Internet a par exemple été créé. En fait, ce texte propose toute une batterie de mesures. Neutralité religieuse pour les agents des services publics, même les intervenants ponctuels de la CAF à la SNCF. Les associations qui reçoivent de l'argent de l'État devront signer un contrat républicain, ce qui est loin de faire consensus, tout comme la possibilité pour les préfets de retoquer des décisions municipales, par exemple les horaires de piscine non mixtes ou les menus communautaires à la cantine. Côté éducation, le président veut rendre l'école obligatoire dès 3 ans, on en a beaucoup parlé, mais les règles ont été assouplies pour cause de risques constitutionnels. Enfin, la loi interdira les mariages forcés ou les certificats de virginité délivrés par les médecins.
Et c'est bien la religion musulmane qui est visée.
Alors pas l'islam, mais ça dérive, l'islam radical, comme Emmanuel Macron l'a dit au Mureau au mois d'octobre. Mais depuis, l'exécutif hésite, tâtonne. La preuve, le titre de la loi a changé plusieurs fois. D'abord intitulé « Lutte contre le communautarisme », puis « Contre les séparatismes », avant d'être rebaptisé « Loi qui conforte les principes de la République ». Une grande prudence dans le choix des mots, aucune mention spécifique à la religion ou à la laïcité, par crainte d'amalgame.
Et comment il faut le comprendre ça? C'est un signe d'apaisement?
Oui, car politiquement, ce texte va provoquer des remous. Emmanuel Macron fait donc du « en même temps ». C'est un texte répressif, mais aussi de cohésion sociale, explique un proche. L'idée, c'est de ne pas braquer dans la majorité, parce que chez les marcheurs, il y a certes ceux qui veulent un durcissement significatif, mais il y a aussi une aile gauche très inquiète d'une stigmatisation de l'islam. La crainte de l'exécutif, c'est une majorité divisée. Par exemple, si la droite propose d'interdire le voile pour les petites filles, la députée En Marche Aurore Berger ou la ministre Marlène Schiappa y sont favorables. Mais à titre personnel, c'est loin de faire l'unanimité dans la majorité. Je vous laisse imaginer toutes les polémiques possibles. Rendez-vous en janvier donc pour la discussion à l'Assemblée, avec un texte qui aura peut-être déjà bien évolué d'ici là.
La Brigade, signée Vincent Derosier. Merci beaucoup Vincent.
Dans un instant sur RTL, les salles de sport fermées pour cause de Covid, toutes? Eh bien non, il y a des exceptions. On va vous expliquer tout ça avec notre enquête.
RTL Matin.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. Nouveau conseil de défense aujourd'hui même à l'Élysée et sur la crise sanitaire.
Jean Castex prendra la parole demain. Une seule question se pose désormais. Le gouvernement va-t-il déconfiner alors que le nombre de contaminations ne baisse plus? Parmi les secteurs à l'arrêt, les salles de sport. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Pourtant, certains ont reçu un mail les incitant tout de même à venir pratiquer. Étonnant, c'est pas interdit?
Eh bien non, ce n'est pas interdit parce que l'accès aux salles de sport est possible dans un cas et un seul cas, avoir une prescription médicale. C'est ce qu'ont dans leur sac ces jeunes sportifs fringants qui sortent de leur entraînement.
Alors en fait, j'ai un problème à l'épaule. Du coup, j'ai demandé à mon médecin qu'il me fasse une prescription médicale.
Alors moi, j'ai fait une prescription médicale que j'avais depuis petit, comme quoi j'ai besoin de faire du sport parce que voilà, je suis assez nerveux, j'arrive pas à tenir en place. Donc du coup, ça a marché, j'ai présenté ma prescription et voilà, ils m'ont autorisé à faire du sport.
Et d'ailleurs, certains médecins assument, ils le disent clairement, comme le docteur Baruc, que je l'ai appelé, il est généraliste à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le rapport se passe entre le patient et le médecin. Moi, je considère que si la seule porte de sortie c'est du sport sur ordonnance, mais j'assume le fait de leur prescrire du sport sur ordonnance.
Mais que dit le ministère, Julien ?
Eh bien, que les règles sont beaucoup plus restrictives que ça. En réalité, être nerveux, comme le sportif qu'on vient d'entendre, ça n'entre pas dans les cas prévus. Outre les maladies chroniques, celles qui peuvent ouvrir droit à prescription sont listées. Il n'y en a que 30. C'est ce qu'on appelle les ALD, affections de longue durée. Obésité, diabète, Alzheimer, dépression aussi. Certaines salles de sport fournissent même sur leur site internet des déclarations toutes prêtes à remplir par le médecin. Ce n'est pas interdit, mais c'est au généraliste, non pas de juger si un patient a besoin, mais si la pathologie du patient entre bien dans la liste des affections de longue durée.
Et les médecins s'y retrouvent ?
Certains généralistes admettent qu'on leur demande parfois des prescriptions bidons, donc ils doivent dans certains cas faire preuve de pédagogie pour la refuser. Et à côté de ça, d'autres médecins sont frileux à l'idée de laisser sortir leurs patients, les exposer au virus. L'exemple qui m'a été rapporté avec une femme qui se remet d'un traitement lourd après un cancer du sein. Son médecin ne l'a pas autorisé à continuer le sport.
L'enquête du 8h signée Julien Fautra.
8h12, en Bretagne, vous voulez joindre l'hôpital? Eh bien soyez patient.
L'hôpital de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor a remercié ses standardistes pour les remplacer par un standard automatique à reconnaissance vocale. Il ne faut pas être pressé, Nicolas Bobby.
Bretonne et Savoyarde, Geneviève galère à chaque appel. après le bip, pour joindre un patient, dites patient. Pour joindre un service, dites le nom du service. C'est à vous.
Hépato-gastro. Ça va peut-être marcher, ça.
Voulez-vous IAO?
Ah, ça n'a pas marché. Non.
Désolé. Quel nom avez-vous dit?
Hépato-gastro. C'est assez énervant, mais bon, on sait qu'on ne peut pas faire autrement.
Malade, le standard automatique déteste les accents. Karine Letertre, aide-soignante, déléguée force ouvrière.
Il bug régulièrement. Nous sommes quand même dans une région bretonnante et un département vieillissant avec des personnes handicapées. Le serveur vocal ne les reconnaît pas du tout.
Le directeur délégué de l'hôpital de Saint-Brieuc, Jean-Baptiste Fleury, propose un remède.
Améliorer les appels directs directement les services sans passer par le standard. Améliorer le paramétrage du serveur vocal pour que ça soit plus simple.
Le standard ne sert pas aux appels d'urgence, il faut composer le 15 et cela fonctionne parfaitement.
Merci. C'était Nicolas Bobby, faites le 2.
C'était donc...